VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydou Dia et Morgane Guerriec en votre compagnie. Bonsoir et bienvenue à l'édition du vendredi 3 juillet 2015. À la une ce soir.
Le Nigeria, 11 hommes tués par Boko Haram pour avoir refusé de rejoindre ses rangs.
À N'Djamena, les autorités ont découvert une cache d'armes au domicile d'un membre présumé de Boko Haram.
Les États-Unis ont suspendu certains programmes d'aide au Burundi.
Le Proche-Orient, les forces de sécurité palestiniennes ont arrêté une centaine de membres du Hamas en Cisjordanie.
Et ici aux États-Unis, c'est journée fériée et chômée. Aujourd'hui, en prélude au 4 juillet, la fête de l'indépendance.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Découverte à N'Djamena d'un important stock d'armes au domicile d'un membre présumé de Boko Haram, des roquettes, des obus de mortier, des lance-roquettes, des fusils AK-47 et des caisses de munitions de tout calibre enfouies dans un grand trou et couverts par une dalle ont ainsi été trouvées. D'après l'AFP, la police a débusqué la cache lors d'une descente hier au domicile de Moussa Omar, tué par les forces de l'ordre le mois dernier.
Nouvelle attaque dans le nord-est du Nigeria. Au moins 31 personnes ont été tuées par des islamistes présumés de Boko Haram dans l'état de Borno. Des témoins cités par l'AFP rapportent qu'une cinquantaine d'hommes armés sont arrivés dans le village de Moussa à moto. Ils ont ouvert le feu sur ceux qui tentaient de s'enfuir et brûlé 90% du village. Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait que 11 hommes sélectionnés au porte-à-porte ont été tués dans la nuit à Miringa parce qu'ils avaient refusé de rejoindre les rangs de l'organisation terroriste. C'est ce qu'ont expliqué des habitants à l'AFP. Fuyant le recrutement forcé de Boko Haram, ces victimes étaient venues se réfugier dans ce village.
Et c'est dans ce contexte que le président nigérien a condamné aujourd'hui les dernières attaques inhumaines et barbares de Boko Haram. Pour Muhammadu Buhari, elles illustrent la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre les insurgés islamistes.
Retour sur l'attaque meurtrière contre les casques bleus au Mali. La représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, a vivement condamné l'attentat de jeudi qui a coûté la vie à 5 soldats burkinabés. Bagassikoura.
Dans un communiqué publié jeudi soir, les États-Unis, je cite, condamnent dans les termes les plus forts possibles l'attaque terroriste du DG contre un convoi de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. L'embuscade a eu lieu près de Tombouctou, dans le nord du pays. 6 soldats du Burkina Faso ont été tués et 5 autres blessés. Dans ce communiqué, les États-Unis appellent le gouvernement du Mali à enquêter immédiatement sur l'incident pour retrouver les responsables. Pour les États-Unis, ces attaques terroristes menacent la stabilité du Nord Mali et le bien-être de tous les Maliens et exhortent les parties maliennes signataires de l'accord de paix à rester unies contre toute tentative visant à saper la marche du pays vers la paix.
Attaque meurtrière contre les casques bleus au Mali, vous l'avez dit, et au Burkina même, le cadre de concertation de partis politiques regroupant l'ancienne opposition de Blaise Compaoré a condamné ce vendredi les menaces sur la sécurité du Premier ministre Isaac Zida. Il met en cause le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle. Les partis politiques appellent les plus hautes autorités militaires du pays à faire en sorte que l'ancienne garde de Blaise Compaoré ne continue pas à s'ériger en perturbateur de la transition.
Les États-Unis ont suspendu certains programmes d'aide au Burundi. C'est ce que nous dit Camille Grosdidier.
À l'origine de cette décision, les abus commis par la police durant les manifestations suscités par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat à la tête du pays, mais également la décision du gouvernement burundais de procéder à des élections législatives qualifiées d'imparfaites par la diplomatie américaine. Dans un communiqué, le département d'État estime que la décision du président Nkurunziza de se représenter à la présidentielle a entraîné des dizaines de morts, provoqué un exode massif du pays et endommagé l'économie. Les opposants du président affirment que sa décision de briguer un troisième mandat enfreint la constitution burundaise. Par ailleurs, les Nations Unies ont estimé que le scrutin législatif et communal de lundi au Burundi est dénué de toute crédibilité. La mission d'observation électorale de l'ONU a relevé en particulier un climat de peur et d'intimidation et des violences à Bujumbura avant et pendant les élections.
République démocratique du Congo, les parlementaires sont convoqués en session extraordinaire du 4 juillet au 4 ou au 2 août. Ils devront débattre du projet de loi censé permettre la tenue en octobre d'élections locales contestées, indique l'AFP, citant l'Assemblée nationale, un texte qui a été rejeté en juin en première lecture par l'Assemblée nationale.
Scène de désolation dans plusieurs localités somaliennes suite au retrait de la force de l'Union africaine. Le retrait de la MISOM, qui survient après l'attaque la plus meurtrière perpétrée par les islamistes, laisse le terrain libre au Shabab. Le point avec Eddie Sango.
Les drapeaux des Shabab flottent désormais dans certaines localités somaliennes, notamment celle de Koriolei, à 80 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. Avec Audegel, Koriolei est l'un des quartiers de la région méridionale de Basse-Chabelle, d'où les casques verts se sont retirés. Les habitants affirment que les combattants Shabab sont entrés dans la ville. Le préfet du département d'Audegel, Mohamed Aweis, a lui-même affirmé avoir quitté la ville, rapporte l'AFP. Les casques verts sont depuis un certain temps la cible des Shabab, qui revendiquent dans une vidéo montrant plusieurs cadavres avoir tué la semaine dernière près de 80 soldats de la force africaine. L'ennemi fuit la région. C'est le début de la chute des envahisseurs chrétiens, a déclaré le combattant Shabab Mohamed Abou Abdallah à l'AFP. Chassés de la plupart de leurs bastions du centre et du sud somalien, les Shabab multiplient désormais les opérations de guérilla contre les institutions somaliennes et la MISON qui compte 22 000 hommes.
Et puis, cette nouvelle qui ne manquera pas de vous faire sourire, la grand-mère kényane de Barack Obama, propose de faire la cuisine pour son petit-fils lors de sa visite officielle à Nairobi fin juillet. Mama Sarah, qui habite un petit village dans l'ouest kényan, entend lui préparer des plats traditionnels à base de poisson, poulet et maïs. Cela n'a pas d'importance que Barack soit sénateur ou président. Il mangera ce que j'aurai préparé pour lui, a-t-elle lancé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif ont discuté aujourd'hui à Vienne des points qui ont empêché d'aboutir à un accord à la date butoir du 30 juin dernier, Jean-Roger Bion.
Ces discussions surviennent au lendemain du voyage du directeur général de l'AEIA, Yukuya Amano, à Téhéran, où il a rencontré le président Hassan Rouhani et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Shamkhani. Les discussions visaient surtout à aller de l'avant sur les points de désaccord concernant la surveillance et la vérification par l'agence de l'ONU des sites nucléaires iraniens. Je crois que les deux parties ont une meilleure compréhension sur des moyens pour avancer, même si plus de travail sera nécessaire, a déclaré M. Amano aux médias. Toutefois, aucune personne n'a été enregistrée dans ces pourparlers qui vont bientôt entrer dans leur deuxième semaine. Les représentants de l'Iran et des 5 membres permanents de l'ONU, plus l'Allemagne, se sont donnés jusqu'à mardi prochain pour conclure un accord limitant le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Les négociateurs demeurent optimistes sur l'éventualité d'un accord au cours de cet ultime round de négociations.
Un djihadiste tunisien de premier plan et ancien vétéran d'Al-Qaïda, Seyfallah Ben Hassin, a été tué dans une frappe américaine en Libye le mois dernier. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le New York Times, qui dit que le raid visait à la mi-juin un autre chef djihadiste, l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Interrogé par l'AFP, le ministère tunisien de l'Intérieur a indiqué n'avoir aucune information sur la mort de Ben Hassin.
La Turquie n'envisage pas d'opération militaire du jour au lendemain en Syrie pour protéger sa frontière, a affirmé son premier ministre Ahmet Davutoğlu, sur fond de rumeurs d'interventions persistantes dans la presse. C'est de la spéculation, a déclaré M. Davutoğlu lors d'un entretien accordé jeudi soir à la chaîne de télévision privée Canal 7. Depuis plus d'une semaine, les médias turcs affirment que le gouvernement envisage une opération militaire en Syrie pour repousser loin de ses frontières les djihadistes du groupe État islamique et empêcher la progression des forces kurdes qui tiennent désormais une grande partie de la zone frontalière avec la Turquie.
Les forces de sécurité palestiniennes ont arrêté une centaine de membres du Hamas en Cisjordanie, selon un responsable de sécurité palestinien, faisant monter la tension entre le mouvement islamiste qui contrôle Gaza et ses rivaux de Ramallah, qui, il y a plus d'un an, avait signé un accord de réconciliation. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Le Nigérien Mahaman Lawan Gaya a pris ses fonctions de secrétaire exécutif de l'Association des producteurs de pétrole africain. Nommé le 3 avril, il remplace le Béninois Gabriel Dansou Lokosou. Lors de la passation de service mercredi à Brazzaville, présidée par le ministre congolais des hydrocarbures, André Raphaël Luemba, les déclarations ont porté sur les difficultés dues à la conjoncture économique globale, rapporte l'Agence d'information d'Afrique centrale. Depuis l'annonce de la nomination du franco-ivoirien Tidjane Thiam à la tête du Crédit Suisse, le cours de la banque en bourse a progressé de 14,1%, indique Jeune Afrique. Le nouveau directeur qui a pris ses fonctions le 1er juillet a fait carrière dans l'assurance à la City de Londres pour Aviva avant de devenir PDG du géant britannique de Prudential en 2009. Les diamants en provenance de l'ouest de la Centrafrique sont autorisés à l'exportation, a annoncé le ministre centrafricain des Mines, cité par l'agence de presse africaine. Les régions où l'État a repris ses droits avec le déploiement de l'administration sont considérées comme des zones vertes, conformes au principe de certification des diamants, a souligné Joseph Agbo hier devant la presse à Bangui. La décision du processus de Kimberley de lever partiellement les sanctions ne concerne pas les autres zones où les armes circulent encore et où les diamants sont vendus pour entretenir les conflits, a-t-il expliqué. La Centrafrique a été suspendue du processus en mai 2013.
La Minute Éco, merci Nathalie Barge. Feu sur les stades, les sports, avec vous Idrissa Seydoudia. En football, quelques nouvelles du mercato ?
Ok, alors l'international camerounais Benoît Assou Ekoto file en Ligue 1 française où il a signé un contrat d'un an avec Saint-Étienne. À 31 ans, le défenseur des Lions compte 24 sélections avec l'équipe du Cameroun.
L'Ivoirien Wilfred Cannon, lui, signe à Lille.
Selon l'équipe, le défenseur central, 21 ans, du club néerlandais d'Ado, La Haye, qui est sous contrat jusqu'à 2017, devra signer incessamment avec Lille un contrat de 5 ans. Il y retrouvera l'entraîneur Hervé Renard avec qui il a remporté la CAN cette année. Voilà, je crois qu'on peut maintenant céder l'antenne à Bagassi Koura qui se connaît mieux que moi en sport.
Et que moi, surtout.
Voilà.
Mais bon, je vais quand même vous lancer sur la NBA. À 39 ans, Tim Duncan, l'emblématique joueur des San Antonio Spurs, compte bien jouer la saison prochaine.
Eh bien, il dit que je serai là, hein, sur les parquets la saison prochaine. C'est ça, en tout cas, ce qu'a déclaré ce quintuple champion NBA au quotidien San Antonio News, Duncan, qui aura 40 ans en avril 2016, est sous contrat avec les Spurs jusqu'à la fin de la saison prochaine. Le pivot avait entretenu le flou sur ses intentions après l'élimination des Spurs dès le premier tour des playoffs.
Tennis à Wimbledon, résultat des matchs de la cinquième journée du tournoi disputé ce vendredi.
Eh bien, simple messieurs, le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, a battu l'Australien Bernard Tomic, numéro 27e mondial, 6-3, 6-3 et 6-3. Le Belge David Goffin a battu le Cypriote Marcos Bagdatis 6-3, 6-4, 6-2. Et victoire du Suisse Stan Wawrinka, numéro 4 mondial, sur l'Espagnol Fernando Verdasco 6-4, 6-3 et 6-4.
Voilà pour les sports. Merci Bagay Sikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Sedoudia et Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour.
Après le Bénin, François Hollande est en visite officielle aujourd'hui en Angola et au Cameroun. Si le chef de l'État français a salué l'exemple démocratique béninois, les questions politiques ont été oubliées au profit de nouveaux accords économiques en Angola et au Cameroun, dont l'engagement dans la lutte contre Boko Haram a été salué. Un double langage qui n'a pas échappé aux éditorialistes de la presse africaine. C'est une prime aux dictatures, s'insurge Bundi Ouoba, rédacteur en chef du quotidien burkinabé Le Pays.
Il faut dire que le président Hollande a fait le bon choix. Il a décidé de commencer sa tournée par le Bénin, qui est une vitrine démocratique de la sous-région ouest africaine. Puisqu'il s'arrête au Cameroun, tout comme en Angola, il ne pouvait pas aborder les questions politiques. Il a décidé de commencer par le Bénin, qui est un exemple en démocratie pour donner donc des leçons à deux sentences et au président d'hier.
En ce qui concerne le Cameroun, est-ce que ce n'est pas une visite pour remercier l'investissement du pays dans la lutte contre Boko Haram et du coup fermer les yeux sur le fait que Paul Biya est au pouvoir depuis 32 ans?
Oui, naturellement. Il faut dire que cette visite de François Hollande, pour ce qui est de l'Angola et du Cameroun, constitue, pour tout dire, une prime à l'impunité. Parce qu'au Cameroun, le président Hollande a décidé de fermer obstinément les yeux sur les questions politiques, pour ce qui concerne l'alternance et la gouvernance. Le président Hollande n'en parle pas. C'est là, ce qui le mène, c'est sur des questions sécuritaires. Pour remercier le président Biya, le président Hollande a décidé donc d'aller rendre visite à son homologue angolais, tout en sachant que ce monsieur règne sur le pays près de 35 ans. Après ça, il s'est envolé pour le Cameroun, où Biya aussi règne au pays plus de 30 ans. Et il a décidé, comme je l'ai dit, de fermer les yeux sur tout ce qui concerne les questions de gouvernance politique. Nous estimons que la société civile africaine elle-même qui a manqué l'occasion de donner de la voix. Elle aurait pu interpeller le président français sur cette question politique-là. Nous avons vu au Cameroun, du Paris, à Cotonou, le président Hollande s'est adressé au Parlement. Chose qu'il n'a pas faite, sauf si je m'abuse, en Angola et au Cameroun. Il a donc décidé volontiers de ne pas parler de questions qui peuvent fâcher.
Mais en ce qui concerne l'Angola ou même le Cameroun, est-ce que les sociétés civiles sont pas trop muselées et du coup ne peuvent pas s'exprimer aussi librement qu'elles l'aimeraient?
C'est ça. Vous savez qu'en dictature, il ne peut pas exister une société civile digne de ce nom. Parce que bon, ils règnent à souhait sur leur pays. Mais nous estimons que c'est le prix à payer lorsque l'on veut sortir de la dictature. Il faut bien une société civile forte et une opposition politique forte. Quand que ça ne peut pas payer, celle-ci aurait dû donner la voix lors de cette visite-là pour interpeller le président français sur des questions politiques.
C'était Bundi Ouoba, rédacteur en chef du quotidien burkinabé Le Pays. Il était joint à Ouagadougou par Claire Morin-Gibourg.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham.
Une autre crise financière mondiale se profile à l'horizon et le monde n'y est pas préparé, encore moins l'Afrique. C'est le constat établi cette semaine par des économistes et experts financiers réunis à l'université de Cape Town en Afrique du Sud pour visionner le nouveau documentaire de Terry Jones sur la question. Timothée Dodongmaï a recueilli à ce sujet l'analyse de l'économiste Demba Moussa Dembélé, président de l'ONG Arcade à Dakar, pour qui tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne.
Moi, je dirais qu'il y a deux catégories de pays africains. La première catégorie, ce sont les pays qui suivent les prescriptions, les conseils de la Banque mondiale, du FMI, de l'OMC, dans la voie de la libéralisation à outrance, tant au niveau du commerce qu'au niveau des flux de capitaux. Ces pays, il est évident que s'il y a une crise, ils seront emportés par la bourrasque parce qu'ils n'auront pas les moyens de se défendre, parce qu'ils seront trop ouverts et l'État sera tellement affaibli pour intervenir que ces pays seront engloutis par la crise, ça c'est sûr. Mais il y a une autre catégorie de pays qui essaient d'avoir des politiques beaucoup plus souveraines, beaucoup plus axées sur l'intervention de l'État et moins de libéralisation, de protéger leur marché et de prendre des décisions qui sont plus conformes à leur réalité plutôt que de suivre les conseils des institutions financières internationales.
On avait dit durant la crise de 2008 que l'Afrique avait été épargnée du fait de sa contribution marginale au commerce mondial. Qu'est-ce qui a changé en Afrique depuis 2008?
En 2008, quand on a dit que l'Afrique a été épargnée, c'est parce qu'on disait qu'elle n'était pas trop connectée aux marchés financiers internationaux. À part peut-être l'Afrique du Sud, le Nigeria et quelques petits autres pays, si vous voulez. Cette question de commerce international, l'Afrique, c'est l'une des régions du monde les plus ouvertes au commerce international. C'est-à-dire que si on prend la contribution du commerce international à son PIB, l'Afrique pratiquement est à 51-52%. Donc si on dit 2%, ça n'a pas tellement de sens. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus de poids dans le commerce international. Mais quand on compare l'impact du commerce international dans le revenu, cet impact est assez faible. C'est comme les États-Unis, je crois que ça ne fait pas plus de 10%. C'est surtout le marché intérieur qui est la principale source de croissance. Pour beaucoup de pays africains, c'est le commerce parce que on compte sur les exportations de matières premières pour avoir des devises avec lesquelles on paye la dette et on paye les importations.
L'économiste Demba Moussa Dembélé, président de l'ONG de recherche Arcade, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La Somalie est dans la bonne trajectoire de développement après des années de chaos, mais la fatigue des donateurs et l'insécurité continuent de menacer ses fragiles acquis. Telle est l'évaluation faite par Philippe Lizarini, coordonnateur humanitaire onusien pour ce pays. Les précisions de Lionel Gahima.
Arrivé en fin de mission hier, Lazzarini a aidé à gérer ces deux dernières années l'aide en faveur de la Somalie qui se remettait de la famine et d'une guerre généralisée. Le diplomate suisse a appuyé la solidification et le fonctionnement du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, note des signes positifs partout en Somalie.
Mogadiscio, par exemple, est méconnaissable. Vous avez des embouteillages, des feux de circulation. Vous avez un nouvel aéroport, un des hôpitaux les plus modernes d'Afrique de l'Est. Vous entendez beaucoup de coups de marteau et vous avez beaucoup de membres de la diaspora qui sont revenus en quête de possibilités d'investissement.
Bien sûr, les défis habituels persistent. Le groupe militant Al-Shabaab poursuit ses attaques contre le gouvernement et les acteurs internationaux entravant sérieusement l'œuvre humanitaire. Pour Philippe Lazzarini, la situation sécuritaire aura été la principale source de frustration.
Durant mon mandat, nous avons été directement pris pour cible à 6 reprises. Nous avons perdu 7 agents internationaux et, en dépit de toutes les mesures que nous avons prises, nous continuons d'être visés.
We are still target of this.
Alors que le pays s'est presque remis de la famine de 2011, quelques 730 000 personnes, soit 10% de la population, font toujours face à une insécurité alimentaire sévère. La Somalie a besoin d'une aide internationale soutenue pour pouvoir amortir des chocs futurs, a dit le coordinateur humanitaire onusien, concédant cependant qu'en raison des autres crises dans le monde, maintenir le financement pour ce pays reste un défi.
We are aware.
Nous avons conscience d'un environnement compétitif, mais nous devons nous assurer que cette perspective positive ne soit pas sapée par une chute soudaine du programme humanitaire.
En quittant la Somalie, Philippe Lazzarini occupera des fonctions similaires au Liban. Il sera remplacé par le Néerlandais Peter de Klerk, précédemment en poste à Haïti.
Les États-Unis sont à l'heure des festivités patriotiques. Le pays marque l'Independence Day, commémorant la signature de la Déclaration d'indépendance qui a eu lieu le 4 juillet 1776. Beaucoup d'événements sont prévus pour l'occasion, mais en raison de possibles attentats terroristes, les mesures de sécurité ont été renforcées sur le territoire américain, mais aussi dans les ambassades des États-Unis à l'étranger. Petite immersion dans l'histoire pour se souvenir de la date historique américaine lorsqu'un pays devenait indépendant de l'Empire britannique. Avec le montage technique de Lionel Gaïma, Jacques Aristide nous fait revivre ces moments forts.
Neither aiming at originality of principle or sentiment, nor yet copied from any particular previous writing.
Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique est signée à Philadelphie. Pour la Grande-Bretagne, c'est une déclaration de guerre à de ses 13 colonies d'Amérique. Les mois qui suivent sont sanglants. La défaite de l'armée de George Washington paraît inéluctable face aux puissantes forces britanniques. Mais les patriotes ne jettent pas les armes et continuent à combattre jusqu'à la victoire de Yorktown. Le chef d'état-major Washington en profite pour déployer ses troupes d'élite qui parviennent à achever les Anglais. En 1783, l'Amérique est libre, une nouvelle nation est née. « 139 ans après, les Américains s'en souviennent. Mais aujourd'hui, c'est une autre guerre que mènent les États-Unis, tant sur leur sol qu'ailleurs dans le monde, afin de préserver les acquis d'indépendance et des libertés. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi cette année, les célébrations du 4 juillet à travers le pays ont été placées sous haute surveillance. » Le département d'État a accru les mesures de sécurité au niveau de ses missions diplomatiques partout dans le monde en raison de craintes d'attentats en marge de la fête. Pour leur part, le département de la sécurité intérieure et le FBI ont déjà émis des avertissements contre une possible et imminente attaque terroriste sur le territoire au cours de ce week-end de festivités. À New York, les autorités sont sur le qui-vive. Le commissionnaire de la NYPD, chef de la police de la ville, Bill Bratton.
Nous avons toute la ville à protéger. Ce ne sont pas seulement les événements autour du fleuve. Il y aura donc beaucoup de policiers supplémentaires déployés dans la ville pour faire ce qu'ils font normalement.
Dans la baie de New York, où est amarrée la frégate l'Hermione, réplique de celle de Lafayette au XVIIIe siècle. Lafayette, avec 242 hommes à bord, avait débarqué en 1780 pour apporter l'aide de la France à la Révolution américaine. Le majestueux Trois Mâts participera samedi à la fête du 4 juillet. Son capitaine, Yann Carillou.
Je pense qu'être ici pour le 4 juillet, le jour de l'indépendance, c'est très très fort en symbole, puisque évidemment... On pourrait dire que ça marque complètement le voyage de 1780, puisque le but de l'Hermione, c'était d'apporter l'indépendance à ce pays. Et c'est ce que l'Hermione a fait avec Lafayette.
Malgré les menaces, les Américains ne vont donc pas manquer de marquer d'une pierre blanche cette date mémorable de leur histoire. Un 4 juillet qui est l'occasion des feux d'artifice, des défilés ou si vous préférez, parades, des barbecues, des pique-niques et le tout complété par des matchs de baseball. Les uns et les autres n'oublieront pas non plus de se souhaiter Happy Fourth, joyeuse fête de l'indépendance.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Présentation, Morgane Diriek et Idrissa Seydoudia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos, eh bien, dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.